Retour vers le futur, c'est un petit peu le thème de ce dimanche aux alentours de 16h30, retour vers le futur, puisque des légendes qui ont marqué les années 2010 se sont rappelées à notre bon souvenir. La victoire de Toyota aux 24 heures du Mans, cumulée à la victoire de Lewis Hamilton du côté de Barcelone. On va en parler tout de suite. Bref, vous l'avez compris, le sport et l'histoire, c'est des cycles qui se répètent. Salut les amis, ravi de vous retrouver. On est en pleine forme, pleine énergie, grosse intensité sur ce plateau. C'est exceptionnel, on a vécu un moment incroyable ce dimanche. Si vous aimez les sports mécaniques, les sports à quatre roues, les sports automobiles, eh bien j'espère que vous avez vibré. On va parler et débriefer ce Grand Prix de Catalogne. C'est plus le Grand Prix d'Espagne, mais le Grand Prix de Catalogne qui se déroulait du côté de Barcelone. Et pour en parler, deux experts éminents. Quand il s'agit de parler d'automobile. Et j'ai commencé notamment par monsieur Brice Germain. Comment ça va, Brice ?
Super, au top. J'ai dormi en une nuit ce que vous avez dormi en 4 jours.
À peu près.
Moi ça va.
Il faut le dire avec mon ami Pierrot Despilo, à qui je vais dire bonjour. Comment ça va, Pierrot ?
Ça va et toi ? On est rentré à peu près sur les mêmes
températions. Ne mens pas, ça ne va pas.
Hein ?
Ça ne va pas, dis pas que ça va.
Non, ça ne va pas. Après, ceci dit, tu vois, je reviens avec un joli teint.
C'est vrai.
Mais ça, c'est les 24 heures du Mans avec beaucoup de soleil, etc. Il n'y a pas eu de pluie, il y a eu une belle bataille. Et on a essayé de suivre comme il fallait quand même le Grand Prix. On se l'est fait un peu spoiler, je te l'avoue, à l'arrivée des 24 heures du Mans, parce que j'ai regardé un peu en replay. On se l'est fait spoiler par un commissaire ou quelqu'un de l'organisation qui est arrivé, qui a fait... Super la victoire de Lewis.
Oh ouais, non mais ça sera.
Et puis quand même 25-0 sur Antonelli hein. Je suis waouh, AB top. Et bah top, on va aller regarder ce Grand Prix du coup.
Et en même temps, tu t'attends à quoi en allant sur un événement automobile ?
Bah qu'on parle des 24 heures du Mans du coup.
Ouais.
Si on est aux 24 heures du Mans.
Ouais, c'est un peu le concept.
Accessoirement. Bref,
il m'arrive exactement la même chose que toi. Ouais, en vrai, je suis détruit, les gars, je vous le dis. On va faire une grande émission. On va faire une grande émission, ça va être très qualitatif. On a 4 sujets qui sont absolument fous. Le Grand Prix était vraiment bien et je me suis fait spoiler de la même manière que toi. C'est-à-dire en mode, je suis en train de commenter l'arrivée des 24 heures du Mans. Et là, d'un coup, j'entends une team radio. Genre, un mec qui dit Haha, Forza Ferrari. Et je me dis, c'est quoi ce bordel ? C'est pas la voix de Charles Leclerc. Et puis bon, voilà.
La 50 est pourtant au garage, on comprend pas.
Voilà. Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'était pas James Calado, vraisemblablement. Mais en tout cas, voilà. Les gars, justement, j'allais vous dire, hier, aux alentours de 16h30, vous étiez plus Grand Prix de Catalogne ou arrivée des 24 heures du Mans ?
Moi, forcément, pour la première fois, j'ai vécu l'arrivée des 24 heures du Mans. Donc, écoute, je me réservais le Grand Prix de Catalogne pour un peu plus tard. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein.
Ok.
D'autres questions ?
T'as kiffé les 24 ?
Franchement, ouais. Okay. Après moi j'étais vraiment dedans avec Michelin et tout, donc forcément c'était un peu particulier. Mais on a eu accès à de belles choses et notamment au musée 24.
Exceptionnel.
Si vous avez l'occasion d'y aller, toi tu vas surkiffer ta race. Mais vraiment, et je pèse mes mots, désolé pour les gros mots, mais tu vas surkiffer ta race.
Faut que j'aille un jour de course, parce que je vais rarement au Mans quand même. Mais c'est un jour de course, je
fais en tant que karting.
Il faut qu'on se le fasse ensemble, les gars.
Ah bah, c'est quoi, on fera une émission spéciale en direct.
Et bah allez, week-end au Mans, hein, c'est le rêve absolu.
Alors moi, j'en rêve plus, hein, j'avoue, ça m'a tellement détruit que je ne peux plus voir cette ville.
Ça fait 2 ans qu'il fait un malaise le lundi matin.
Non, je salue les copains d'Alpine Endurance d'ailleurs. C'était vraisemblablement, enfin, c'est officiel, mais leur dernier 24 heures du Mans, il y avait une émotion vraiment folle et j'ai eu la chance de vivre cette édition la semaine avec toute l'équipe, mes ingénieur, pilote, Victor Martin, ça fait 3h30 de relais extraordinaire. On vous a dit sur ce plateau que ce mec-là avait un talent de dingue et je pense qu'il marquera un jour l'histoire du sport automobile français.
Alpine reviendra peut-être si Fernando Alonso signe.
C'est vrai. Et ben ça tombe bien, on va en parler justement. Nous.
C'est rire gras. Des rires briatoresques en fait.
Ouais, c'est vrai.
Qui sentent l'argent et le vice
et la fatigue.
Et là qu'il est fatigué, le pauvre.
Et la rillette, nous dit Brian, puisqu'on parlait du Mans aussi.
Ah,
c'est important. Les gars, on va se replonger justement. C'est le débrief du Grand Prix de Catalogne. On va se replonger tout de suite. Et bien sur les résultats, le résultat à l'arrivée de ce Grand Prix, moi je me suis plutôt régalé pour un Grand Prix de Barcelone. Pour un Grand Prix à Barcelone que je n'apprécie pas énormément, j'avoue que celui-ci m'a impressionné. La victoire de Lewis Hamilton.
Back in 2019 ou quoi ?
C'est incroyable. On a pris la DeLorean et on est de retour, bien sûr, dans le passé. Il devance son ancien coéquipier, monsieur George Russell. Il devance aussi Lando Norris. C'est le premier podium d'un trio britannique depuis plusieurs décennies. On y reviendra
1978,
tout à l'heure.
Je crois.
Exactement. Max Verstappen à la quatrième place. Oscar Piastri, cinquième. Le premier français, c'est Isaac Hadjar. Il est sixième. Pierre Gasly, septième. Franco Colapinto a été déclassé puisqu'il a dépassé le nombre de drapeaux jaunes. Il n'a pas respecté une procédure de drapeaux jaunes. Liam Lawson, neuvième, bien évidemment. Les gars, j'ai commencé par dire justement que je m'étais régalé sur ce Grand Prix. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Et moi, je l'ai vu en replay pour le coup et dans des conditions un peu bizarres. Et pour le coup, j'ai vraiment pris du plaisir. Je sais pas s'il y a une édition de Barcelone qui m'avait autant régalé que celle-ci. Alors, attention, c'est pas le meilleur Grand Prix de l'année non plus, mais d'un point de vue stratégique, c'était génial. Ouais.
C'est pour moi celle qui ressemble le plus à 2016. Parce que 2016, on avait eu justement ce côté 3 arrêts, 2 arrêts, et Ricciardo et Vettel, si je dis pas de bêtises, qui sont sur une stratégie, et Verstappen et Raikkonen sur une autre.
C'est ça.
Et ça avait donné une bataille de fin assez sympa. Il n'y avait pas eu vraiment de bataille, mais il y avait eu en tout cas tension entre Raikkonen et Verstappen jusqu'à la fin. Moi, je me suis effectivement régalé, et je pense savoir pourquoi, dans ma sensibilité, je me suis régalé. C'est qu'à mon avis, j'ai retrouvé des choses que j'avais perdu depuis très longtemps, à savoir avoir justement cette inquiétude par rapport à la fiabilité et avoir deux stratégies différentes. En fait, c'est le premier Grand Prix où on a deux arrêts à minimum depuis longtemps. En tout cas, on les a rarement. Et avoir quelqu'un qui tente trois arrêts, mais en fait, c'était le béaba de la course dans les années 2000, d'avoir justement cette tentative d'aller plus vite, mais en faisant un arrêt de plus. Et franchement, ça m'a régalé de devoir suivre en fait deux courses en parallèle et de me dire mais qu'est-ce qui va se passer à la fin. Pareil. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment les écarts stratégie et le fait qu'on soit pas aligné sur un medium hard des familles où tout le monde roule à 9 secondes des temps.
Non, mais c'est exactement ce que dit Brice. En fait, ce qui est très cool, c'est qu'on a vécu 4 relais, voire ou 3 relais, que finalement les deux stratégies pouvaient se valoir. Et je suis un petit peu déçu que chez Mercedes, on va en parler, c'était un peu le bordel. Et donc, du coup, on n'a pas eu notre bataille de fin de Grand Prix. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en 2021, on avait la même chose, mais avec un ou deux arrêts. Et je me souviens qu'un Verstappen ou un Hamilton pitaient. Et obliger l'autre à s'engager sur aller au bout de la course, et ça revenait, et dans les tout derniers instants de course, tu pouvais peut-être avoir cette tension de bataille qui arrivait, et on l'a pas vécu là, mais en tout cas c'est ce vers quoi ça se dirigeait, et je pense que cette tension là elle a été ressentie.
Et encore à l'époque t'avais aucune possibilité de défense dans ces moments là ouais. Là potentiellement avec les gestions des batteries t'as une possibilité de défense, si jamais on arrive à avoir ces stratégies là qui se différencient, on peut avoir vraiment de la belle bataille en piste. Maintenant que l'artifice a été un peu gommé par les rééquilibrages, on peut commencer à se régaler un peu.
Et pour corroborer complètement ce que tu viens de dire, sur une piste où il y a plusieurs trajectoires possibles, en fait cette histoire de batterie, je trouve, prend tout son sens. Et même d'un point de vue visuel, le premier secteur, quand il y avait de la bataille, il y avait une impression de vitesse, une impression, un côté féroce autour de CF1, moi qui m'a beaucoup plu.
Ah ouais, t'as l'impression, sur le premier relais, qu'Isaac, il y a une autre caisse.
Ouais.
C'était pas une F1, c'était une 0.5 qui partait à des vitesses folles. Il dépassait toujours à l'extérieur. Ouais. Et même, en fait, ça permet quand même de dépasser dans des endroits où justement on a été dernièrement habitué à ce que ce soit uniquement Alonso ou Verstappen qui le tente.
Et encore, c'est pas
en ligne droite, il n'y a pas de DRS, etc.
Donc, dans l'avant-dernier virage, il fait l'intérieur sur Berman ou sur Ocon, je sais plus. Là, personne le tente d'habitude, ça. Tu peux pas le faire d'ordinaire.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est très beau, c'est cool pour le coup. C'était un bon Grand Prix de Barcelone. C'est pas un super Grand Prix, mais un bon Grand Prix de Barcelone.
Un Grand Prix normal des années 2000, moi je dirais. Enfin, c'est.
Ce qui est déjà un bon, c'est très bon signe, ce que tu viens de dire. C'est très intéressant.
Ah, hors Michael Schumacher.
Oui, oui.
50 secondes sur Barrichello. Schumacher, 87e victoire de la saison.
Et jouant à top position.
Le tricycle rouge.
Ça, c'est excellent. La sieste qui a commencé en 2000 et qui s'est terminée début 2005. Les gars, les quatre enseignements qu'on a retenus justement à la fin, à l'arrivée de ce Grand Prix, très très tard dans la la nuit et grâce à un excellent brésilien, il faut le dire. Lewis Hamilton fait gagner.
Qui branle rien.
Lewis Hamilton, pardon, qui fait gagner, non pas ta Scuderia, mais sa Scuderia, bien évidemment. On reviendra sur la 104e victoire de Lewis Hamilton en carrière et la première avec Ferrari. Leclerc Russell, on a titré Prince condamné à l'ombre. Alors, pour le moment, hein, bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais on reviendra sur le cas de Leclerc et Russell annoncé numéro 1 et qui, pour le moment, sont dans le doute, ces petits bonhommes, parce qu'il y a des pilotes à côté d'eux qui, justement, ont semé une petite graine dans ce début de saison et on y reviendra. Mercedes. Qu'est-ce qu'on a mis sur Mercedes?
Ils se sont crus en 2014. C'est vrai que le retour, ils ne le voient pas les spectateurs, mais le retour est un petit peu plus bas que d'habitude.
Exactement. Et on a donc Manu aussi qui est en circulation extracorporelle à l'heure actuelle, pour tenir.
Et qui est aveugle d'un œil à l'heure actuelle, bien évidemment. Non, Mercedes, voilà, ils se sont crus en 2014 parce qu'on est très étonné de voir ces Mercedes eh bien, se battre justement lorsqu'il y a une tentative, par exemple, d'undercut de M. Lewis Hamilton. On y reviendra tout à l'heure. Mais Mercedes a l'impression de tout dominer et on voit bien que cette domination est un petit peu, eh bien, quelque peu limitée. Et puis, Fernando Alonso, un dernier pari.
Pas foireux.
Ouais, merci beaucoup les gars.
on le carie.
Début d'émission cataclysmique.
Non, mais pour le watch time, restez avec nous, on ne sait pas si Manu terminera l'émission.
C'est ça qui est beau.
C'est exactement ça. On va revenir sur cette rumeur qui est née, eh bien, ce week-end et qui a été alimentée notamment par des médias, eh bien, très sérieux. Est-ce que Fernando Alonso pourrait rejoindre Alpine aux côtés de Pierre Gasly? J'avoue que c'est vrai que dit comme ça, moi quand j'ai lu ça, la première fois que j'ai lu la news, j'ai explosé de rire, je fais c'est fou. Et je l'ai lu 3-4 fois, je fais ah ouais. Voilà.
Mais en vrai, tu t'es rappelé qu'il dîne 3 fois par semaine avec Briator et que.
Ouais, ouais, mais bon.
Enfin, tu vois. Déjeuner au Twiga.
C'est un peu le concept, t'as quitté 3 fois ton ex et tu reviens une 4ème fois.
Ouais. Mais il y a jamais de choses qui arrivent. Après, à chaque fois qu'il est revenu, il y avait l'ambition de gagner quelque chose ou d'être avec Briator. Au choix. Là, quand il est parti, il n'y avait pas l'ambition de quoi que ce soit. Le fameux projet sans course.
Ouais.
Oui, c'est SANS, on rappelle. Et maintenant, il y a quand même un projet qui est peut-être un peu plus prometteur, en tout cas plus prometteur que celui de la tondeuse verte.
Exactement, et c'est là-dessus, bien sûr, qu'on reviendra. Les amis, le pouce levé, bien évidemment, pour le référencement, c'est très important. Vous abonnez aussi à Paddock RMC, les réseaux sociaux, où vous pourrez retrouver toute l'actualité de la Formule 1 et toute l'actualité de Paddock Pass, votre rendez-vous préféré concernant la F1. On attaque tout de suite le premier enseignement. Hamilton qui fait gagner sa Scuderia. Je disais tout à l'heure, la 104e victoire d'Hamilton en F1. Non, absolument pas, c'est la 106e. On allait plutôt avec ce tableau. La première avec Ferrari, il aura dû attendre 31 Grands Prix, Lewis Hamilton, pour remporter son premier Grand Prix avec une combinaison rouge. Un événement, ce n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de Belgique 2024. Il remporte d'ailleurs, comme Michael Schumacher, sa première victoire chez Ferrari à Barcelone. Premier podium aussi, 100% britannique depuis 1968. On évoque aussi la SF26 en très grande forme du côté de Barcelone. Gagner à Barcelone, mine de rien, les gars, n'est jamais vraiment anodin dans une saison, un circuit de test où on a vu que la Ferrari se battait pour la pole, se battait pour la victoire. On a pu se rendre compte aussi de l'avantage de Ferrari et bien sûr l'aéro, notamment en virage. Pouvait-il s'imposer à la régulière? C'est l'une des questions qu'on va essayer de se poser. Puis la fin de 1 an et 7 mois de disette pour la Scuderia et la victoire de Sainz au Mexique, on le rappelle, en 2024. Et puis, il y a un constat, on posait la question il y a quelques semaines, est-ce qu'on n'est en train de retrouver le roi Lewis? C'était la question qu'on posait il y a peut-être un mois, il y a deux Grands Prix. Et là, bah, on a mis exactement la même titraille, mais avec un point d'exclamation. Oui, on a retrouvé le grand Lewis. On a retrouvé ce qui a fait, je trouve, moi, c'est mon avis en tout cas, l'hégémonie Lewis Hamilton. La gestion des gommes, qui hier a été déterminante. Ferrari, qui a parfaitement aligné sur l'exécution. L'arrêt effectué sous Virtual Safety Car pendant le DNF eh bien, de Fernando Alonso. Une stratégie globalement absolument parfaite, l'undercut aussi sur le premier relais, et cette question maintenant qui va eh bien, nous se poser à nous, peut-il viser le titre Lewis Hamilton qui est revenu à une 40aine de points de Andrea Kimi Antonelli et qui est désormais eh bien, le dauphin du leader du championnat. Les gars, peut-être le premier aspect sur lequel on peut revenir, je vous ai donné les faits, on va bien sûr vous faire réagir sur tout ça. Qu'on soit, et je crois que c'est marrant, c'était un message que t'as envoyé Brice, que je partage tout à fait, qu'on soit amoureux de Lewis Hamilton, qu'on soit des tifosi la Scuderia Ferrari, je crois que tous les passionnés de Formule 1 ont vécu un grand moment d'émotion hier.
Bah déjà tu l'avais vécu à Silverstone en 24.
Exactement.
Et il n'y avait pas Ferrari inclus là-dedans. C'est un grand moment d'émotion aussi parce que en fait il y a un storytelling de fou derrière ça. C'est que c'est pas une victoire qui apparaît en 2022 au moment où en fait on Lewis Hamilton a toujours l'aura qu'il avait et il est en mode revanche. Là Lewis Hamilton a mangé son pain noir pendant très longtemps et le choix de rejoindre Ferrari pouvait commencer à être mis en cause. De par Ferrari, de par Hamilton lui-même, de par cette incompatibilité dont on avait le sentiment l'année dernière, notamment avec Ricardo Adami et avec peut-être une certaine mentalité qui ne fitait pas, et on a l'impression que c'est tout l'inverse cette saison et que c'est grandement dû à Lewis Hamilton. Que c'est grandement dû à ses propres remises en question, au leadership qu'il amène dans l'écurie et du coup aux choix qui sont faits par l'écurie qui aujourd'hui tiennent compte des retours de Lewis Hamilton sur des aspects critiques de la monoplace, sur des philosophies qui sont présentes depuis des années sur la monoplace, des philosophies amenées ou en tout cas perpétuées par Charles Leclerc. Il y a quand même un impact énorme là-dedans. Donc quand tu prends tout ça et que tu amènes à Barcelone donc une victoire qui est référence normalement si tu gagnes à Barcelone et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements de course. En l'occurrence, la VSC, on en dira.
De fou pour Ferrari.
On en dira ce qu'on voudra de la VSC. Pour moi, elle n'a pas changé grand-chose.
Elle n'a pas changé grand-chose. Non, je suis d'accord.
Donc oui, et pour éviter d'être trop long là-dedans, je pense effectivement que tout ce storytelling-là fait que cette victoire-là, elle apparaît comme un exemple de résilience, de reconstruction et d'un mec qui n'est pas revenu au top, mais qui a créé un deuxième lui, qui est entre guillemets vierge de victoire et qui commence à être au top avec une nouvelle écurie.
Moi, j'ai envie de te dire, en fait, je vais te faire une comparaison. Silverstone 2024, c'était une victoire de Lewis Hamilton comme si c'était la dernière possible
c'est
de
vrai.
Sa carrière.
Ça, c'est vrai. Et on l'a vécu celle-là, comme ça. Hein.
C'était ressenti, et on l'a beaucoup ouais. ressenti comme ça. Et celle-là, je trouve que c'est une victoire construite de Lewis Hamilton. Et j'ai retrouvé un Lewis Hamilton d'avant 2022. Vraiment dans la manière d'agir, dans la manière de parler à l'équipe, la manière de rouler. Est-ce qu'on met plus de rythme? Est-ce qu'on en met moins? Il est à l'aise avec les gommes, avec la strat. Il lead. On a du répondant aussi dans l'oreillette, en tout cas du côté des ingénieurs. Et tout le monde avance dans la bonne direction. Et en fait, tout ça, comme le disait Brice, ça met effectivement une ambiance et un assemblage qu'on voit particulièrement cette année, qui aujourd'hui se transforme en victoire avec la présence de Lewis Hamilton. Mais moi, je trouve que c'était déjà le cas, on pouvait déjà un peu le ressentir comme ça, et c'est vrai que ça avait pas autant transpiré, mais dès les essais hivernaux, moi j'ai senti une Scuderia qui osait, qui avait envie, qui allait de l'avant, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Scuderia comme ça, et là on en a eu la matérialisation, parce que Ferrari, depuis maintenant quelques courses, ou en tout cas depuis le début de la saison, d'un point de vue stratégique, même si ça peut pas marcher à tous les coups, c'est des bons calls à chaque fois. Je trouve que c'est des bons calls, sauf pour Leclerc, pour le coup, à Monaco. Mais à Monaco, la réflexion, quand moi j'ai regardé le Grand Prix, j'ai dit putain, oui, mais bien sûr, c'est intelligent de faire ça. Même si ça marche pas, c'est intelligent de le faire. C'est bien de provoquer, d'essayer, etc. Et là, hier, on s'est retrouvé avec un Lewis Hamilton, une Scuderia Ferrari qui était en action, qui était en train d'agir et non pas en train de subir, ce qui a été le cas de Mercedes pour le coup.
Exactement. Deux réactions de Lewis Hamilton. On a retrouvé Lewis Hamilton sur la piste hier, le grand Lewis Hamilton des années 2010 et de l'hégémonie. On l'a retrouvé aussi en conférence de presse. Regardez cette déclaration. J'ai commencé un rêve l'an dernier et ça n'a pas été facile, mais on n'a jamais perdu espoir. L'équipe m'a toujours soutenu, on a fait des changements qui nous ont fait progresser. Merci à mes fans, ce sont les meilleurs qu'on puisse avoir. Mes victoires sont toutes spéciales, mais celle-ci est quelque chose d'autre. J'ai toujours vu Ferrari gagner quand je regardais la télé. Et en courant ici, je regardais les écrans en me demandant ce que ce serait de gagner pour cette équipe. Et maintenant, c'est fait. Lewis Hamilton, je rebondis sur quelque chose de très intéressant que tu as dit, Brice, sur le leadership aujourd'hui autour du projet Ferrari. Il nous raconte ceci, pareil, toujours en conférence de presse. Je pense que j'ai réussi à me recentrer. Je me suis bien préparé, je me suis entraîné énormément en coulisses, mais aussi avec l'équipe qui m'a donné la confiance en faisant des changements. Tiens, est-ce qu'on parlerait pas des freins? En ayant confiance en mes demandes, et je suis heureux. J'aime faire ce que je fais. C'est le meilleur ressenti de piloter une Formule 1. C'est encore très long, et Mercedes ont un très bon rythme. L'écart est encore grand, mais on va travailler dur, et ce n'est pas fini. C'est sûr. Est-ce que aujourd'hui, même si on est encore très tôt dans la saison, pour vous, Lewis Hamilton est un prétendant au titre, les gars ?
On peut pas dire non. Enfin, en tout cas, on est encore trop tôt dans la saison pour dire non. Ça, c'est sûr et certain, je pense.
Tu peux pas dire non avec la duo qui arrive, en sachant que les prévisions, en tout cas ce qui a été publié, pas officialisé, mais publié, montrent que par rapport à Mercedes, il y aura de l'avantage dans le développement, que le moteur, en plus, il est prêt.
Ça m'a fait réagir. J'étais là, je suis en mode putain, c'est marrant, les mecs ils savent.
Ils avaient anticipé.
Ils ont anticipé le truc. Forcément, on va avoir un truc d'aduo, donc on sait déjà ce qu'on va faire. Et le moment où boum, on peut déclencher le truc, on ramène l'amélioration direct. Quoi. Genre, ils sont prêts. Ils sont prêts.
Et surtout qu'en fait, quand, bon, déjà, t'as la dynamique des résultats où bah, il est quand même sur 36 plus 25, ça fait 61 points en 3 courses.
Correct.
C'est ça ? J'ai pas de bêtises ? Oui, c'est ça. Qu'il est leader du championnat sur les 3 courses. Et que normalement bah, le package d'évolution c'est son premier Grand Prix hein. C'est-à-dire que la compréhension déjà elle arrivait vite mais il y a peut-être encore des choses à comprendre, notamment sur l'avant, l'arrière on sait qu'il est stable mais là où je mettrais le plus d'avantages pour Lewis Hamilton sur le côté il devrait pouvoir se battre, c'est que la voiture elle a l'air beaucoup plus conçue par rapport à ses retours encore une fois, et que ce leadership là, enfin t'as jamais vu une Ferrari depuis 10 ans avoir de l'arrière, enfin c'est pas la caractéristique de cette voiture. Et là il se met à pivoter, tiens je repense à la W11 à Barcelone qui faisait que pivoter de l'arrière comme il faut. S'il est sur un rail dans ces moments là ça le met dans des conditions où il peut effectivement être Sir Lewis Hamilton, tu vois, et aller chercher ce genre de choses. À la bataille c'est encore autre chose, mais en tout cas il est en train de prouver que sur 6 générations de voitures différentes il a gagné, et sur 6 générations de voitures différentes il peut s'adapter à faire quelque chose d'extraordinaire, donc je ne l'exclurai pas de la lutte et le vent souffle pour Ferrari au vu de comment les choses vont évoluer pendant l'été.
Moi, il y a quelque chose de hyper impressionnant, c'est que quand même de voir Lewis Hamilton réussir à imposer des choix dans une institution comme Ferrari où c'est hyper dur de donner un cap, d'aller vers ceci, vers cela, parce qu'il y a tout le monde qui n'arrête pas de faire de la politique dans tous les sens, même si Fred Vasseur arrive à essayer de faire le boulot que faisait Jean Todt d'une certaine manière. Je suis bluffé par le fait qu'on commence à écouter peut-être plus Lewis Hamilton, et la confirmation d'avoir une victoire comme ça, etc., c'est... Ouais, je le retiens, quoi. Je suis là, je suis en train de... Waouh, il se passe vraiment quelque chose.
Je pense qu'il y a aussi un travail qui a été fait, c'est le boulard qui est tombé chez Ferrari. Le boulard de s'exciter dès qu'il y a une bonne performance et ce côté nous sommes Ferrari qui est très année arrive à Bene.
Il y a de l'humilité qui est arrivée.
Il y a de l'humilité qui est arrivée, je pense, avec Vasseur, beaucoup, qui a calmé un peu tout le monde parce que c'est son tempérament, et que je pense que si quelqu'un se voit trop beau, lui, il le calme direct. Et si quelqu'un commence à être trop pessimiste, lui aussi, le calme direct. Et quand Hamilton arrive quand Hamilton arrive et que ça ne marche pas, qui peut se permettre de dire à Lewis Hamilton, t'es une merde? mais pas des ingénieurs qui n'ont pas gagné.
Des mecs dans des canapés qui font des émissions, peut-être.
Nous, on ne l'a jamais dit.
On ne l'a jamais osé.
Mais, à minima. Mais quand tu n'as pas gagné depuis 20 ans et que ce mec-là a gagné partout où il est passé et qu'il se retrouve éliminé en Q2 ou en Q1 l'année dernière, il y a peut-être un moment donné, effectivement, où le gars peut t'amener quelque chose. Donc peut-être qu'on a commencé à l'écouter sur certains trucs, qu'il a aussi abordé les choses de la bonne manière, mais en attendant, j'ai entre guillemets un peu peur, et on viendra là-dessus en deuxième partie, j'ai un peu peur pour Charles Leclerc qu'il prenne un leadership technique qui relègue Charles Leclerc dans un rang où on ne l'imaginait pas, quoi.
Garde tes billes. Dernier point sur lequel je voulais vous faire revenir, George Russell dit hier en conférence de presse que selon lui, que Hamilton était tellement rapide, que cette Ferrari volait tellement du côté de Barcelone, qu'à la régulière, il l'aurait emporté même sans l'entrée de la virtual safety car, même sans ce troisième arrêt, même sans certaines circonstances de course, et beaucoup d'observateurs s'accordent à dire, mais heureusement que Ferrari n'a pas le meilleur moteur, parce qu'en fait sinon il n'y aurait pas de suspense dans cette saison.
Comment
vous situez par rapport à ça, vous les gars?
Il y a des circuits où elle était censée être performante, elle l'a moins été. Je pense que ces voitures sont encore trop jeunes pour qu'on puisse délivrer des conclusions en disant genre elle est comme ça, donc elle va marcher à tel circuit. On a été surpris à Monaco de voir Mercedes, à quel point Mercedes était présente. Donc je suis pas sûr qu'ils domineraient absolument tout, mais c'est clair et net qu'ils ont un désavantage sur ce point-là, et que la voiture ira mieux entre guillemets facilement que si le châssis était pas sain. Par exemple, là, le châssis est sain, l'aéro est en développement et ça marche plutôt bien.
Les améliorations qu'ils ont apportées, ça a fonctionné au final.
Oui, quand tu vois l'écart de performance entre la practice 1 et le et le dernier relais de Lewis Hamilton, oui, effectivement, tu peux te dire que ça a performé. Après, est-ce qu'ils auraient gagné fondamentalement? J'ai toujours un peu peur de ces simulations.
C'est compliqué. Bien
sûr. Parce que science-fiction, comme ça.
Non, mais Antonelli, ouais, ouais. Il mettait une pile à Russell dans le dernier relais, et pour autant, quand tu arrêtes dans les deux secondes, est-ce que tu es capable de faire exactement la même chose? Est-ce que la Ferrari a ce potentiel offensif-là? On ne l'a pas forcément totalement vu.
Antonelli, il disait justement, ouais, si j'avais réussi à passer Georges sur le deuxième relais, peut-être s'il aurait été dans le mix avec Hamilton pour la bataille, mais de là à savoir si à quel point il l'aurait rattrapé ou pas, ça c'est une autre vraie question.
Et peut-être qu'il abandonne pas, parce que rester derrière le sillage comme ça.
Avec des science-fiction, on refait le monde. Hein.
C'est le but de cette émission.
Sci-fi, comme dit notre ami Hamza, qui est du côté des États-Unis, et que l'on embrasse, lui, le commentateur de la Coupe du Monde.
Je suis Qatar.
Sacré statut pour notre ami Hamza. Les gars, on passe au deuxième enseignement. Je pense qu'on a tout dit sur Lewis Hamilton. On a hâte de voir la suite des événements. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup Ferrari du côté de Monaco, mais on aura eu Ferrari surtout du côté de Barcelone.
Et ça, je n'attendais pas du tout à Barcelone.
Ouais, pareil.
Ouais, non plus. Moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir Russell, Antonelli, 25 secondes et peut-être les McLaren.
Et encore.
Mais pas les Ferrari, quoi.
Non, pas les Ferrari. Mais tu vois, ce qui est méga marrant, c'est qu'au final, on a eu tort sur Monaco, on a eu tort sur Barcelone, on va avoir que des surprises.
Après, mais tu vois,
j'espère que ça va continuer.
Ça peut aussi être circonstanciel, parce que, par exemple, si cette voiture est meilleure dans les virages lents, bah, peut-être que justement cette dégradation qu'il y a eu à Barcelone due à cette chaleur fait qu'eux ont réussi, grâce au châssis, à compenser une dégradation dans ces virages et à gagner beaucoup plus de temps en course dans ces virages-là que les autres. Ça ne veut pas forcément dire que s'ils faisaient 10 degrés de moins, cette Mercedes n'aurait pas mieux supporté Barcelone. Donc en fait, c'est tellement des détails que...
On ne fait que découvrir aussi cette nouvelle réglementation.
Mais eux aussi, quand tu vois les retours d'Isaac qui dit « on pensait avoir capté un truc à Montréal, en fait on n'a rien compris ». Bon bah, je pense qu'ils ont déjà plus de billes que nous pour comprendre quelque chose, donc je pense que nous on ne comprend rien.
On parle des seconds couteaux, les gars.
Allez.
Enfin.
Oh là là.
Des seconds
c'est
couteaux.
Admis.
Il s'appelle
du
comment?
Deuxième
Russell...
enseignement consacré à des statues numéro 1 qui laissent à
les
penser qu'ils ont des mentales et bien de seconds couteaux. Leclerc Russell, vous avez compris, prince condamné à l'ombre avec ce petit tableau. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver déjà du week-end de Charles Leclerc, alors qu'il disposait d'une voiture compétitive, qu'il avait même placée devant celle de Lewis Hamilton vendredi? Il a été beaucoup trop en retrait par rapport à son coéquipier depuis samedi. Une énorme erreur en qualification qui le prive d'un temps en Q3. Il part depuis la P10. Un rythme de course pas au niveau de celui de Lewis Hamilton. Et puis l'abandon, deuxième course avec 1-0 pointé après Monaco. Et puis j'ai dit, Russell, c'est plutôt mi figue mi raisin. On va commencer par le côté positif. Il faut noter quand même que la chance était avec lui ce week-end, au moment où il voit justement le moteur et bien d'Andrea Kimi Antonelli partir en fumée. Point négatif, par contre, c'est la performance et l'impression. Dominé notamment en rythme et en course par Antonelli qui se paie le luxe de le dépasser et de creuser l'écart. Incapable d'aller chercher Lewis Hamilton. Russell qui ressemble de plus en plus à Bayrou. Bah oui, c'est lui le troisième homme, bien évidemment. Et puis de numéro 1 potentiel à potentiellement fragile, c'est une question. Ce qui les unit, tous les deux, Leclerc et Russell, annoncés comme la relève, propulsés numéro 1 et pourtant contestés par leurs coéquipiers. Et cette contestation semble révéler une certaine fragilité qui va être intéressante, les amis, à observer cette saison. Comment ils vont gérer le fait que leurs coéquipiers leur soient quelque part rentrés dans la tête. Commençons par le week-end de Charles Leclerc, les gars.
Moi j'ai envie de commencer par juste un fait. Je trouve que Charles Leclerc, évidemment il y a eu les crashs etc, mais moi j'ai envie de commencer par prendre un peu de hauteur. Charles Leclerc n'a jamais appris d'un autre pilote expérimenté comment mener une équipe dans la bonne direction. Si on prend Sébastien Vettel, sur les deux dernières saisons, le torchon brûlait. Ouais. Vettel, il n'arrivait plus à emmener l'équipe quelque
aussi.
Part.
Hein, les cheveux aussi.
Les cheveux aussi. Et pareil, après, il a été co-numéro 1 à égalité avec Carlos Sainz pendant toute leur carrière ensemble chez Ferrari.
Mais de fait, c'est-à-dire que,
complètement.
C'est les résultats en piste qui ont mené Carlos Sainz à avoir un statut qui ne pouvait pas être considéré comme numéro 2.
Mais, au final, Charles Leclerc n'a jamais appris. Et il n'a jamais vu comment on construisait de la manière dont était en train peut-être de le faire Lewis Hamilton d'une certaine manière en interne, comment on fait pour rassembler une équipe. Je pense qu'il n'a pas trop de mal,
non,
Charles.
Non, mais ça c'est fait.
C'est fait, mais il le fait aussi un petit peu par défaut, et il le fait de manière un peu naturelle parce que naturellement il a hérité de ce statut de numéro 1 chez Ferrari, tu vois, quand Vettel est parti. Mais là t'as un Lewis Hamilton qui arrive, qui est pas du tout chez lui et qui au fur et à mesure, step by step, bah, montre comment on fait, comment on va dans cette direction, etc. Et Charles Leclerc, bah, déjà de 1 il va apprendre ça au bout de 10 ans en Formule 1. C'est pas ouf, ça aurait été bien qu'il apprenne ça avant, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et donc, du coup, ça le relègue un petit peu sur quelque chose de. Sur un pilote qui va être un peu desservi. J'espère pas mis à l'écart, heureusement, tu vois. Mais du coup, bah, forcément, ça met beaucoup plus en relief les erreurs qu'il fait, que ce soit là en qualif à Barcelone, à Monaco. Là, il a encore un problème sur la voiture. C'est pas les freins, c'est l'hydraulique sur la voiture. Enfin bon.
Non, mais attention, on ne nie pas le fait qu'il a de la poisse.
Ah, oui, non, mais ça, c'est clair. Mais c'est clair.
Et même chose pour Russell tout à l'heure. Hein.
Mais
pas forcément sur Barcelone, mais
sur Leclerc, j'avais dit un truc, je crois en 2022 dans l'émission, et je maintiens, je pense que le lien affectif dans ces moments-là peut être problématique pour savoir taper du poing sur la table quand il faut taper du poing sur la table. Je pense que Ferrari et Leclerc se protègent mutuellement de beaucoup de choses et que par conséquent la remise en question est parfois, je pense, trop douce et que quand t'es le fils du patron, c'est quand même plus difficile d'aller taper du poing sur la table chez papa que quand c'est un directeur que t'as engagé 15K mensuel et qui arrive et qui dit « Oh, là, on est en train d'aller dans le mur. » Et au final, bah, lui... alors certes, il a ce côté affectif avec Vasseur et maintenant avec Ferrari, etc. Mais en attendant, si Hamilton, s'il voit un truc qui va dans la mauvaise direction,
je pense qu'il le dit.
Derrière, il y a quand même un peu de leadership.
Il y a une confrontation
qui fait qu'aujourd'hui...
Charles, il peut pas faire... Il a jamais réussi, quand ça allait pas, que ce soit avec... alors, arrive à Binet, il n'a pas vraiment connu, mais plutôt avec Binotto ou même peut-être a fortiori avec Vasseur. Mais dès que ça allait pas ou que ça allait pas dans la bonne direction, il a jamais su mettre le coup de pied final pour dire maintenant on arrête les conneries et on va faire ça et vous allez m'écouter, comme c'est très bien le faire Max Verstappen, comme c'est le faire Hamilton avec peut-être un petit peu plus de diplomatie. Mais c'est ça qui me dérange chez Charles, c'est qu'il n'arrive pas à donner le dernier coup de massue en mode stop. La première fois qu'on a vu ça, c'était la semaine dernière à Monaco, en disant les freins c'est de la merde, mettez-moi du carbone industrie.
Il a été écouté d'ailleurs. On a gardé
bizarrement il n'y avait pas de problème.
Il y avait des problèmes sur d'autres parties de la bagnole.
Sur le fait d'aller envoyer le train arrière un peu trop violemment dans le 4, mais en attendant, enfin, ces essais libres, ils sont... C'est horrible de dire ça, mais ces essais libres, ils sont très bien. Il a le rythme, il est à 2/10, enfin je veux dire, la Ferrari, elle est là où elle doit être.
Il est dans le match, ouais,
bien sûr. Mais par exemple, typiquement, là où je peux voir ce genre de choses, alors peut-être que je prends ça comme une image et que c'est pas corrélé au reste, mais la manière dont Ferrari gère le moment de son premier arrêt. Donc on l'arrête plus tard, visiblement pour faire un 2-stop. Et en fait, on l'arrête plus tard, mais 3 ou 4 tours, sans pour autant jouer de sa place pour embêter Russell et Antonelli, pour essayer d'aider quelque chose. J'ai trouvé ça en fait particulièrement maladroit. C'est les semi-décisions. C'est on fait ça, non on fait ça, d'accord, bah du coup en fait tu vas quand même t'arrêter au prochain tour. Il y a quand même un côté où on n'est pas sur quelque chose de clair, sur quelque chose de défini, sur quelque chose de tranché. Mais en fait, c'est toujours un peu comme ça.
C'est hyper bizarre parce que hier, beaucoup d'experts en tout cas dans la F1 disaient c'est marrant, on s'attendait peut-être à avoir plus d'écuries tenter les trois arrêts parce que c'était plus intéressant. Et en fait, tout le monde a été très frileux de faire trois arrêts plutôt que de... plutôt que d'en faire que deux, tu vois. Et en fait, c'est là où je me suis dit « Ah putain, pour faire les trois arrêts, faut avoir un plan carré. Faut savoir où est-ce que tu vas. Et si t'as le moindre doute, forcément, tu vas être sur la défensive à faire deux arrêts, tu vois. » Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé avec Charles. C'est ce qui s'est passé avec Russell, c'est ce qui s'est passé avec Antonelli, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres pilotes. Mais ceux qui ont voulu vraiment, de base, faire les quatre arrêts, ça s'est bien passé, hein.
Qui doit être sur la défensive? Un mec qui part P2 ou un mec qui part P10?
Ah oui,
le mec qui est P10,
raison.
Il a rien à perdre.
Il a foiré tout loin. Il doit être proactif, il doit se décaler, t'as raison.
Charles, dès qu'il rate une qualification, le dimanche, forcément il le paye, et à chaque fois il dit, de toute façon, dès samedi, mon week-end, il était foutu.
Bon, bah, là, t'as l'occasion.
Foutu pour foutu, vas-y.
Là,
go.
T'as l'occasion. Si ton week-end
fait trois arrêts, mais
t'as l'occasion en fait de tenter quelque chose.
Et en plus de ça, faire trois arrêts, ça te permet de te décaler, de pas te retrouver trop dans certains trafics, etc. De pouvoir de pouvoir dépasser.
Et t'as le rythme.
Et t'as un rythme. Donc en fait,
tu vas avoir des pneus frais quasiment tout le temps.
Bien sûr.
Tu vas pouvoir du coup avoir ce gap qui va te permettre de dépasser.
Ouais.
Encore une fois, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Et au final, dès que la décision a été prise pour Hamilton, il fallait pas mettre ses oeufs dans le même panier et du coup tenter autre chose avec Leclerc.
Il y avait
soit
ça aussi.
C'est compréhensible.
Il y a les problèmes de virtuel safety car, qui fait quoi, le trafic en temps réel sur le circuit et tout. Donc, ouais, non, bien sûr, on n'a pas toutes les infos.
Les explications de Charles Leclerc pour vous donner un complément d'information, les gars. Vous allez voir, Charles Leclerc le dit, on s'est planté sur toute la ligne. Il dit, je ne veux pas. Alors, déjà, il commence. Il dit sur Canal, en ce moment, il est très généreux au micro de Laurent Dupin. Il dit, je ne veux pas avoir de crédit pour ce qui a été fait aujourd'hui, je n'ai rien fait. Lewis et l'équipe l'ont gagné par eux-mêmes, j'aurais aimé être plus à l'avant et dans la lutte, mais je ne l'étais pas par ma faute. Un week-end très compliqué, la performance était là en essai libre et en qualification, on ne sait pas ce qui s'est passé. La stratégie à deux arrêts que je voulais aussi n'était pas la bonne. On a eu un problème de mon côté, mais j'espère qu'on rebondira à un moment. Et puis rajoute un peu plus loin dans cette interview au micro de Canal+. Je ne peux pas mentir, c'est un sport d'équipe et je suis très content pour Ferrari et pour Lewis, mais ça fait 4 week-ends de suite qu'on a des problèmes et on ne met pas les choses dans l'ordre. Hier, je fais une connerie. Aujourd'hui, j'ai un problème mécanique. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Mais franchement, le bilan, il est cataclysmique du week-end.
Moi, je trouve que... Parce que le problème, c'est qu'un week-end mauvais, enfin, Charles Leclerc, il en a collectionné de sa faute ou pas de sa faute. Mmh. Quand tu reprends 22, même 21, vrai. 20, enfin, c'était comme cataclysmique. Mmh. Pas de sa faute. Hein. Mais je veux dire, il est quand même abonné à ce chemin de croix avec Ferrari. Moi, là, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est la première fois, je trouve, que quelqu'un... dans le leadership lui marche dessus.
Ouais. Ah mais complètement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Et c'est parce que Sainz gagne des trucs, enfin au bout d'un moment, enfin Leclerc réagit etc., etc. Mais si l'équipe commence à se tourner
moi, j'ai
vers Hamilton, parce que c'est l'enfant chéri Charles Leclerc, Carlos Sainz, au moment où il a fallu faire un choix pour faire de la place à Lewis Hamilton, merci Carlos, merci pour les travaux, merci pour les victoires, c'était super sympa, t'as pallié au problème de Charles pendant que lui était pas là, soit. Mais si là en fait Lewis Hamilton commence à avoir chez Ferrari l'aura du septuple champion du monde, l'aura du talent de 2007, l'aura de tout ce qu'ils ont pas eu chez eux, qu'ils se sont battus contre pendant des années et qu'ils ont maintenant à la maison, et que là ils commencent à donner des directions techniques et stratégiques qui vont dans le bon sens, c'est là où pour moi je suis vraiment inquiet pour Charles Leclerc, parce que de l'amour qu'il donne à Ferrari, peut-être qu'il va se manger un retour de bâton très sale et que la resignature aura un goût amer.
Belle relation toxique en tout cas.
Ouais, c'est très toxique, ouais, en effet. Enfin, c'est très toxique. Le jour où il gagnera, et où si un jour il est champion du monde chez Ferrari, on criera aussi au génie. C'est là où il faut équilibrer. On dira que c'est la plus belle histoire romantique de l'histoire de la Formule 1.
Non, mais tout à fait.
Voilà.
Mais
pour le moment, c'est pas le cas.
Non, mais enfin, on est tous d'accord pour dire que ce mec-là a tout pour être champion du monde à un moment donné. Mmh. Mais en fait, il y a aussi des histoires qui s'écrivent en Formule 1 et que tu peux jamais nier l'impact dans l'histoire du coéquipier que t'as.
Ah, ça,
c'est impossible.
Non, ça, c'est vrai, t'as raison.
C'est un sport individuel d'équipe,
c'est comme ça que tu disparais, t'as raison.
Oui, enfin Daniel Ricciardo a stoppé Sébastien Vettel comme Lando Norris a stoppé Daniel Ricciardo, comme Leclerc a stoppé Vettel. Enfin en fait, c'est toujours par rapport à ça.
Comme Lance Stroll a mis Vettel à la retraite.
Ricciardo avait un potentiel similaire à celui de Leclerc quand le Ricciardo était à son momentum.
Une perception oui, de cette manière-là. Et aujourd'hui, il a un salaire de champion du monde parce qu'il est battu un champion du monde. Quoi.
Aujourd'hui, il a 32 piges et il fait du buggy, tu vois. Enfin, donc, alors que t'as Hamilton qui en a 41 et qui fait sa 106e. Donc, encore une fois, il ne faut pas que le momentum détruise Charles Leclerc. C'est ça pour moi qui est important, parce que là, les points au championnat, je me demande si un coéquipier lui a déjà mis ça hors première saison avec Vettel.
T'as raison. Non, mais c'est.
Je sais pas calculer.
On verra et on fera de toute façon les comptes après à la fin course. De cette saison. Mais oui, après cette course, on ira regarder les stats. Ouvrons le cas de George Russell, les gars.
Autre relation toxique.
Parce que
je sais même pas s'il y a relation. C'est...
oui, c'est vrai. Bah, techniquement, vu qu'il y a un contrat, normalement, il y a une relation. Mais...
Je me sens mal aimé.
Oh, il le fait bien. Alors là, bravo. Ça, c'est lundi qu'on aime.
après un week-end compliqué, un petit
mettre François dans la baignoire.
Une semaine compliquée. George Russell, les gars, parce que je disais tout à l'heure, il y a un peu le côté mi-figue mi-raisin. Le côté positif, c'est qu'il a eu de la réussite, il a eu la chance qu'il le fuyait depuis le début de la saison. Mais par contre, les problèmes restent les mêmes. Manque de confiance, manque de rythme. Il se fait encore prendre par Antonelli. Moi, je trouve, l'année dernière, parfois, on était un peu inquiet sur certaines choses qu'on voyait chez Lando Norris. Mais le cas de George Russell, il y a un an, parce que là, il y a eu la jurisprudence Lando Norris. Donc, vous avez vu qu'on marche un peu sur des œufs, on est un peu plus prudent. Et c'est normal, c'est logique. Mais là, remets le cas de George Russell. Il est à la lutte en 2025 et il te ponce qu'il est en train de pondre George Russell. Là, l'inquiétude, elle sera maximale.
C'est un peu différent pour moi. Norris, c'est des erreurs. Mais le rythme, il était là.
Ouais,
par rapport à Piastri. Là, je trouve que comment tu commences avec une demi-seconde d'avance sur ton coéquipier et tu finis par te faire éclater en course en termes de rythme.
Je vais vous apporter l'explication.
Ah, le maestro.
Déjà, de 1, George Russell, moi, je trouve, s'est fait abandonner littéralement par Mercedes. Depuis, alors, je ne sais pas si c'est ce week-end, mais depuis le début de saison. Et effectivement, Antonelli lui marche dessus. Ok, pas de souci. Il s'est fait littéralement abandonner par Mercedes. T'as qu'à voir les réactions de Toto Wolff à l'arrivée de la course. Il est déçu parce que abandon de Antonelli, mais content parce que Hamilton sur la plus haute marge du podium.
C'est vrai que c'est dur.
George Russell P2, tout le monde s'en branle. Top. Deuxième chose, sur la stratégie, il n'y a rien qui va. Les mecs partent donc en médium, donc c'est censé t'ouvrir un gap de stratégie. Le problème sur ce Grand Prix, c'est qu'il fallait, il fallait s'engager sur une stratégie et s'y tenir.
C'est surtout qu'il tient en médium Hamilton en soft.
Mais bien sûr,
tu dis c'est tout gagné.
Mais tu sais pourquoi ? Mais tu sais pourquoi ? Mais parce que Hamilton, lui, il est en soft, machin, voilà. George Russell, il a passé son premier relais à gérer. Il a géré ses pneus pendant le premier relais parce que bah, lui, dans sa tête, bah, on va faire deux arrêts, donc il faut gérer. T'es obligé de faire ça. Hamilton, ça l'arrange complètement. Il gère ses softs et il peut s'arrêter et lui, ça lui ouvre des stratégies. Derrière, Antonelli avait du mal sur les médiums pour commencer, donc bon, ok, il n'arrive pas à remonter sur Hamilton. Hamilton pit. Russell couvre Lewis Hamilton.
Sur deux pneus différents.
Ouais. Et donc, Russell fait bon, ok. Donc, du coup, on bascule sur trois arrêts. Ah non, on reste sur le plan A. Mais comment ça se fait que
il reste 50 tours.
Comment ça se fait que tu t'arrêtes ? Désolé, je vais m'énerver. Mais comment ça se fait que tu t'arrêtes pour couvrir un gars qui est sur une stratégie différente ? Parce que très clairement, une stratégie différente. Et que tu te dis, mais en fait, on va pas adapter notre strat, on va garder le deux arrêts. Mais tu ne peux pas le faire fonctionner. Donc forcément, au bout de 15-20 tours, les pneus, ils commencent à rendre l'âme. Antonelli, effectivement, il revient. Quoi qu'il arrive, naturellement, il a un petit peu plus de rythme que George Russell. Et ensuite, et à la suite de ça, quand Russell se fait enfin dépasser par Kimi Antonelli, c'est juste qu'il a plus de pneus, il est mort. On l'a engagé sur une stratégie qui n'était pas celle qui était prévue dès le départ. Et en plus de ça, on l'a basculé sur une espèce d'hybride un peu pourri, et il arrive quand même à faire P2, mais tout le monde s'en branle.
Mais quand tu vois que dans le deuxième relais, excusez-moi, il en fait que 3 lui de relais, dans le deuxième relais, George Russell, il a les pneus qui sont morts assez vite. Hein.
Mais bien sûr.
Comment du coup tu peux pas à ce moment-là réagir d'une certaine manière ? Peut-être qu'il est déjà trop tard, tu vas me dire.
Ils sont là, ils sont comme des guignols à regarder deux gars se battre.
Tu vas envoyer George Russell
complètement fou
à faire un relais de 30 tours avec ses durs. Parce que s'il n'y a pas la VSC, et quand Antonelli n'est pas dans une situation un peu d'imbroglio, dont on fait quoi, il passe, je passe pas, il y a moyen que Norris passe aussi hein,
oui.
Sur la fin. Donc cette gestion des hards a été. J'ai l'impression que ça a un peu pris les pieds dans le tapis.
On s'est complètement pris les pieds dans le tapis.
Et qu'on s'attendait surtout pas à devoir se battre avec Hamilton. Moi, il y a un truc qui est en urgence là-dessus.
Moi, je veux juste qu'on remette un peu l'hélice au point de corde du virage.
Il est bon.
J'adore la sortie.
C'est une émission
de
Formule 1.
C'est une émission de Formule 1.
Merci.
À partir du moment où tu fais pole, que t'es en tête dans tout le premier relais, que t'as deux voitures contre une, si tu perds la course, t'es nul. C'est les mots de Toto Wolff.
La course, elle est nulle.
Donc en fait, à un moment donné, moi, j'ai du mal à ça. J'ai beaucoup de mal aussi sur le fait que dans l'équipe, effectivement, tout le monde est tourné vers Antonelli. Fair enough. C'est le pilote générationnel qu'on est en train de découvrir. Les gars, allez quand même soutenir George sur la deuxième marche du podium. Hein, si vous regardez les post-linging, très drôle ça. J'ai vu ça ce matin, ça m'a fait mourir de rire. Post LinkedIn de Mercedes en mode tough day at the office. journée très difficile aujourd'hui. Hein. P2 quand même. Hein. Par contre, quand c'est Antonelli et que George il abandonne sur problème mécanique, oh, incroyable journée.
Mais là, je suis pas d'accord parce que c'est la première victoire qui leur échappe aussi.
Non, mais bien sûr.
Non, mais tu verras. Mais bon, dans l'enseignement après, qui se pense en 2014, Mercedes.
Mais bien sûr qu'il se pense en 2014. Quel guignol se dit, on va les laisser se battre alors qu'il y a une Ferrari qui est en train de remonter à coup de gros dixième, si pas seconde.
Alors seconde, il y a un moment il est 2 secondes 5 au tour plus vite. Mais oui. Qu'il a l'avant... on passe troisième enseignement du coup parce que
ouais, là c'est ça. Non mais on avance comme ça parce que là leur tour.
Non mais sur Russell, la seule chose qu'on peut dire effectivement c'est que si, enfin c'est le premier week-end où il a la plus de rythme depuis l'Australie.
Oui.
Et tu comprends pas comment avec son style de pilotage qui est archi coulé, qui est économe sur les pneumatiques, il perd les pneus plus vite qu'un mec qui est censé être à l'attaque.
On l'a foutu dans la merde.
Et Kimi Antonelli, l'adaptation de son style de pilotage à... Parce que la manière dont il prend les trages pour justement garder son style de pilotage agressif tout en pouvant être coulé et être le moins dégradant sur les pneumatiques, c'est stratosphérique ce qu'il a fait sur ce week-end. Gagner littéralement 7 ou 8e par tour en l'espace de 3 séances.
Non, c'est fort.
Fort.
Ah, on est d'accord là-dessus.
Il nous épate, ce Andrea Kimi Antonelli. Troisième enseignement, pardon, Mercedes. Ils se sont crus en 2014. C'est une affirmation, c'est une constatation en tout cas.
C'est le même bruit de moteur.
Dans ce début de saison. Et on va parler bien sûr du moteur. Déjà un petit point sur la duo. Alors, selon les parutions qu'il y a eu concernant la duo, on rappelle qu'il n'y a toujours pas d'officialisation. Mercedes ne serait pas le meilleur moteur de la grille. Les bruits autour de la duo.
Après 300 km.
Après 300 Excellent. Le régulateur autour du développement de moteur. Mercedes ne serait pas le meilleur moteur de la grille, mais celui bien sûr qui l'emporterait, celui de Red Bull. Êtes-vous comme moi surpris par cette information? Est-ce que vous y croyez vraiment, les gars? C'est une des questions. Ce moteur est-il véritablement assez fiable? On rappelle que hier, Andrea Kimi Antonelli a été coupé justement dans son élan alors qu'il venait de se défaire de son coéquipier George Russell. Première casse moteur dans le chef de Mercedes. En tant que fournisseur d'unités de puissance cette saison, mais surtout beaucoup d'abandons liés notamment à des problèmes de batterie. 5, oui. J'en ai dénombré depuis le début de saison. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
Oui, points.
Une nouvelle bataille qui coûte cher, mais surtout cette constatation que Mercedes hier. Justement sur la bataille qui a été autorisée, on repart sur les faits de ce Grand Prix. Lewis Hamilton tente l'undercut sur les deux Mercedes. Que font les deux Mercedes à ce moment-là? Plutôt que de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, peut-être d'aller offrir la tête, le clean air à un pilote et de couvrir Lewis Hamilton avec un deuxième, les deux pilotes se bataillent en piste et à l'arrivée, quand les deux pilotes s'arrêtent à leur tour, Russell non seulement est envoyé dans le trafic, Antonelli ressort en plus de ça derrière Lewis Hamilton. Ils se sont crus en 2014, ils ont cru qu'ils avaient l'arme fatale qui écraser le championnat. Alors, ils ont sans doute l'arme fatale. Ils vont continuer, bien évidemment, de la développer. Quand je dis l'arme fatale, c'est le package, hein. Châssis, moteur, grippe mécanique et tutti quanti. Mais c'est quand même assez étonnant, la perception de Mercedes ces derniers jours, ces dernières semaines. Cette gestion même de Mercedes. Et on a Toto Wolff, moi, je le trouve... On va pas d'un côté cracher sur les papaya rules et dire ouais, il faut laisser les pilotes se battre,
non, mais là, c'est
etc.,
compréhensible.
Etc. Tu vois, mais
là c'est compréhensible.
Mais Toto Wolff, moi j'aimerais savoir quel est le son de cloche, parce qu'on nous a dit que c'était une bataille à la max. Finalement, on nous a dit la prochaine fois c'était du côté de mince, il y a juste avant Monaco, on était
Canada.
Au Canada.
Après la sprint,
ils nous disent ils vont se bagarrer à la max. Après le Grand Prix, ils nous disent la prochaine fois, je vais prendre la team radio parce que on peut pas se permettre de perdre du temps comme ça, etc. Et aujourd'hui, il dit tout et son contraire. Toto.
Non, mais en fait, le truc,
on le verra un peu plus tard d'ailleurs.
Le truc, c'est que avoir de la bataille quand les deux sont à 30 secondes devant tout le peloton, fair enough, pas de souci.
Ah, tu peux péter un aileron. Hein.
Non, mais bien sûr. Mais c'est risque que tu
peux péter.
Il y a pas de souci. Et en 2014, 2015, 2016, c'était le cas.
Ouais.
Pas de problème. À partir du moment où t'as un gars qui remonte de 2 secondes derrière toi, qui a du rythme, qui n'est pas sur la même stratégie, et que tu en as un qui galère dans tes pilotes, et que l'autre, il a envie de passer, mais on n'est pas sûr, machin, si tu fais rien, enfin, je suis désolé, il y a un problème. Donc, il y a soit un manque d'humilité et de réflexion chez Mercedes, vis-à-vis de cette situation-là en particulier. Je pense, et on l'a déjà dit dans cette émission, effectivement, que Antonelli faisait des erreurs, Russell fait des erreurs. Il y en a un qui paye plus cher que l'autre les erreurs qu'ils font. Mais là, aujourd'hui, en tout cas dimanche, on a vu effectivement une voiture qui n'était pas dominatrice. Cette voiture qui n'est pas dominatrice n'a pas masqué les erreurs. Et effectivement, là, je pense qu'on s'est beaucoup reposé sur ses propres lauriers chez Mercedes, parce que c'est un enchaînement de circonstances entre la mauvaise stratégie qu'on adapte à moitié pour George Russell et les laisser se battre en piste. C'est ça qui font qu'ils perdent la victoire alors qu'ils sont deux contre un. Mmh. Ils sont deux contre un. Mmh. C'est pas normal.
Brice, tu veux écouter Toto Wolff ou t'as déjà une take et on écoute Toto Wolff après, je vous fais réagir dessus.
Ah, écoutons Toto.
Allez, on va le lire surtout parce que vous savez qu'on n'a pas les droits.
Une take, écoutons Toto. Mais priorité aux Autrichiens.
Mais là au chaud, Toto Wolff, les explications à l'arrivée de cette course, il nous dit « Nous avons essayé de courir équitablement dans l'intérêt de l'équipe, mais peut-être non. Que cela nous a coûté la victoire. C'est quelque chose dont nous devrons discuter avec les pilotes. » Ça, cette phrase, il l'a dit chaque semaine désormais. Comment devons nous gérer cela lorsque nous nous battons contre quelqu'un d'autre pour la victoire?
C'est vrai qu'il sait pas faire.
Non, il sait pas faire.
Bah non.
C'est vrai qu'il sait pas faire. Parce qu'au final, non, attends, je serais sérieux. Ah, l'histoire de Mercedes.
Si je m'arrivais.
Bah, tu t'es battu contre Max, mais t'avais un Bottas qui était
inexistant.
8 secondes autour derrière. Et sinon, c'était Lewis Rosberg.
Ils savent très bien faire. Monaco 2016, point barre.
Ouais.
Monaco 2016, on demande à Nico Rosberg de laisser passer Lewis Hamilton pour aller chercher la victoire dans l'intérêt de l'équipe.
Mais,
point barre.
Mais on n'est pas sur un même momentum, on est sur deux titres de suite de Lewis Hamilton
et
Nico Rosberg.
On sait faire chez Mercedes.
Oui, mais justement.
C'est les mêmes ingés, c'est les mêmes têtes dirigeantes, on sait faire.
Si je suis d'accord avec toi dans le résultat pour l'équipe, mais en même temps, si tu prends le contexte global, on est quand même sur 7 courses, 6 victoires de Mercedes,
oui.
75 points d'avance au championnat des constructeurs. La victoire n'est 2016, pas obligatoire. Pareil, hein. Par contre, avoir tes deux pilotes engagés jusqu'à la fin de saison, c'est primordial si jamais t'as une Ferrari ou une McLaren ou une Red Bull qui revient dans la lutte. En l'occurrence, c'est le premier week-end où George Russell montre quelque chose depuis un moment quand même. Il lui est arrivé...
Il n'a pas la malchance aussi.
Oui, mais ouais. Parce qu'au Canada, il était là, vernis, tu vas me dire. Au Canada, il était là. Et en fait, tout se passe pas bien pour George Russell depuis le début de saison. Là, il est devant. Tu t'achètes un peu la paix des ménages si George Russell termine devant Andrea Kimi Antonelli. Et je pense pas que ça aurait été si grave que ça pour Andrea Kimi Antonelli de perdre 3 points sur George Russell quand il en a, quand il avait 70, mais 60, je sais plus.
Non, pas plus de
66.
C'est ça.
Je sais plus si c'était sur Hamilton ou sur Russell. Donc en l'occurrence, après 7 courses, pour sauver une victoire et du coup, en fait, aggraver l'avance d'Antonelli, parce qu'il n'aurait pas été possible de faire le swap au vu du rythme de Russell. Hein. Il n'aurait pas été possible de faire ça. Ben, en fait, tu mets Russell. Enfin, Russell, il se dit qu'il a déjà pas la chance avec lui. Il est dieu, comme il dit. En plus de ça, il souffre
c'est
déjà.
C'est l'ingénieur Mercedes, hein, pas les dieux, mais.
Non, mais c'est ce qu'il dit.
Je suis parti full en pour taper sur Mercedes aujourd'hui.
Et derrière, dans une situation comme celle-là, où il a la pole position et où il est devant en piste et où il a même pas eu à défendre sur son coéquipier, derrière, tu vas lui dire bah, Coco, tu veux encore perdre 7 points ? Je peux comprendre que la décision soit compliquée à prendre. Dans l'intérêt de l'équipe et au niveau des points, oui, Mercedes aurait marqué plus de points en faisant ça. Peut-être aussi parce que le moteur d'Antonelli n'aurait pas souffert de la même manière.
Oui, c'est possible aussi. Ouais.
À voir, encore une fois, science-fiction. mais si tu veux garder Russell présent, t'as pas non plus 36 choix. Hein.
C'est ça que je dis. Ils ont vraiment envie de garder Russell présent.
Ça, c'est autre chose.
Voilà,
Max Verstappen n'a pas encore dit qu'il était libre.
Voilà.
Mais en attendant.
Ça commence à crier un petit peu sur tous les toits, là. Enfin, ça commence à se voir. Hein.
Mais...
À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Après, je suis pas dans la théorie du complot, mais quand même,
je
fais un effort.
Non, mais je peux comprendre qu'on ait ruiné une course pour essayer de sacrifier, enfin, pour garder Russell.
Toto Wolff, juste une deuxième déclat, parce que je sens que mon Pierrot, faut le piquer un peu au vif, là, parce qu'il va dégoupiller sur Mercedes. Il nous dit, Toto Wolff, ils se sont battus assez durement avant l'arrêt de George, et je pense que nous avons perdu environ 4, 5 ou 6 secondes face à Lewis.
Oui, 2 au minimum.
C'est délirant.
Plus que ça. Hein.
Bah, bien sûr.
Nous avons laissé ce temps en piste et nous devons en discuter avec eux pour l'avenir. Il y a désormais un troisième acteur qui s'invite dans la lutte pour le championnat, tant chez les pilotes que chez les constructeurs.
Non, mais je vais même
dur pour Leclerc. Troisième acteur, c'est Lewis.
Bah oui,
c'est dur. Hein.
Charles, non.
Non, mais c'est. En fait, c'est
on verra plus tard.
Non, mais c'est. Est-ce qu'ils se sont pas vus? On sait qu'il y a quand même un truc chez Mercedes. Mercedes, c'est l'excellent. l'excellence et la perfection. Mercedes a marqué l'histoire de la Formule 1, mais lorsque Mercedes se trompe, on dit souvent que c'est une question aussi un petit peu, pas d'ego, mais de manque d'humilité.
Ils sont vus plus beaux qu'ils n'étaient.
Que ça fait partie,
peut-être,
entre guillemets, des défauts de leur qualité. On se rappelle de 2022 notamment, de 2021 aussi. Il y a plein de moments dans l'histoire justement où on l'a rappelé ça, le côté un peu sentiment de supériorité. Est-ce que Mercedes s'est pas vu trop beau, les gars, dans ce début de saison? Même nous, hein, ceci dit, en tant que conservateur. Après, on n'a pas toutes les datas dont ils disposent.
Moi, je trouve que c'est plus le comportement sur le dernier relais avec Antonelli qui, entre guillemets, attend derrière Russell d'avoir une consigne pour tenter quelque chose qui me dérange. Mmh. Parce que, du coup, ça veut dire qu'on est tellement dominant qu'on, c'est l'équipe qui décide de comment on va faire les choses. Sauf que là, Antonelli, s'il voulait y aller, il a montré qu'il pouvait. Alors peut-être effectivement qu'il a dû attendre que Russell ait un capital pneu qui fasse une différence telle qu'il ne prenne pas de risque à aller le dépasser. Mais cette situation de statu quo avec Russell qui perd un temps monstrueux sur Hamilton sur le dernier relais, Antonelli qui reste sagement derrière et Norris qui fait ce qu'il peut avec son capital pour tenir Antonelli, je pense qu'effectivement on aurait pu réagir plus vite, notamment pour dire à Antonelli, si tu as la capacité de te battre et que tu as plus de rythme, vas-y, tente quelque chose.
Ils sont pas prêts, ils ont pas discuté avant la course de s'il y a un cas comme ça parce qu'on est deux contre un avec Hamilton, oui, etc. Et ça peut arriver à toutes les courses, donc à un moment donné,
surtout quand Hamilton,
ce genre de choses, ce genre de discussion, t'es obligé de l'avoir avant la course et de pouvoir donner les ordres.
Ah mais ça, ils l'ont pas eu.
Non mais surtout quand tu ne monopolises pas la première ligne.
Et en plus, je suis dans l'incompréhension la plus totale sur le Grand Prix, en tout cas de Mercedes. Je comprends pas.
Je reste quand même sur la position de dire qu'il y en a un seul qui a le droit d'humilier George Russell, c'est Antonelli par ses performances. C'est pas l'équipe. L'équipe doit gérer, jouer avec deux pilotes.
Si Hamilton peut un peu l'humilier aussi par la même occasion. Ça, ils prennent aussi chez Mercedes.
Soyez gentil avec le troisième homme, s'il vous plaît.
Alors,
Charles
Non, lui, c'est le quatrième.
Les gars, dans pas longtemps, ça peut changer.
Oui, c'est vrai, c'est l'autre bataille qui nous intéresse dans cette saison 2026. On est un peu taquin, on se moque un petit peu, parce qu'on est déçus aussi, bien sûr, de ces deux profils dont on attendait énormément et qui nous avaient montré, ça, je pense qu'il faut le dire peut-être aussi, qui nous avaient montré qu'ils avaient progressé ces dernières années.
Ah oui, la saison de la maturité.
Ouais, c'est ça.
Parce que l'année dernière, mine de rien, Russell a fait quand même une saison incroyable.
Incroyable, oui.
24 pour Leclerc, c'est énorme.
Bien sûr.
Donc là, tu te dis, les gars ont le matos. Antonelli, il n'est pas prêt. Et Hamilton, il n'est pas prêt, plus la même fin, etc. Et t'es là, qu'est-ce qui se passe? Ils font quoi, les deux, là?
Ils dorment, ça.
Ils dorment. Les gars, juste une petite relance sur les histoires de fiabilité. Ça vous inquiète, la fiabilité du moteur Mercedes? Moi, j'ai envie de vous dire pas forcément.
Non, pas forcément. C'est 2026. On est sur une nouvelle ère. On est sur une réglementation particulièrement complexe. Maintenant, c'est normal d'avoir des problèmes de fiabilité. C'est pas les seuls. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais
ça arrive pas à Ferrari.
Ferrari, ça c'est la très bonne surprise.
C'est vrai,
ça c'est la très bonne surprise.
C'est
l'autre ça arrive à Ford un peu, mais quand ton concurrent c'est Ferrari et que du coup tu peux potentiellement passer d'un 18 points à 0, Alors, effectivement, il n'y a plus 15 courses, il y en a 24. Mais enfin, ça fait mal. Hein.
Le vrai, en fait, on va commencer vraiment à s'en inquiéter en deuxième partie de saison ou un petit peu avant. Quand on va commencer à accumuler trop de nouvelles pièces sur la voiture, en tout cas sur le moteur, et qu'on va commencer à prendre des pénalités pour la fin de saison,
oui.
Là, c'est là où ça va devenir vénère.
Après, il faut aussi se dire que Hamilton, avec la voiture qu'il a, même nombre de victoires que Russell, a 20 points d'avance sur Russell, il se fait mettre un 6-1 par Antonelli et il est qu'à 40 points. Je te dis qu'un 25-0 de la part d'Hamilton ou un 18 ou même un 15-0, ça fait très mal.
Ça va vite.
Donc c'est pas que je suis inquiet pour Mercedes particulièrement, mais en attendant, c'est une tendance qui se confirme. S'il y a 5 abandons causés par une défaillance de l'ensemble du groupe propulseur Mercedes, oui, c'est un problème. Enfin, tu peux pas être candidat au titre et avoir autant de problèmes. Tu l'as vu en 2005 avec McLaren, tu l'as vu avec Ferrari, je sais plus quand, début des années 2010, je sais plus. Enfin, que la voiture était pas possible. Tu peux pas avoir une voiture pas fiable, surtout dans des airs où tout devient de plus en plus fiable.
Exactement. Les gars, dernier enseignement, on referme cette longue page consacrée à Mercedes et on a évoqué bien sûr les cas du côté de la Scuderia Ferrari. On termine avec, eh bien, ce qui pourrait être un mariage de raison, un remariage de passion, vous l'appelez comme vous souhaitez. Elle plane con Alex. C'est un peu ça. Alonso, un dernier pari, pas foireux, point d'interrogation, avec eh bien, le retour possible de Fernando Alonso chez Alpine. Alors ça, j'avoue, je suis tombé des nues, les gars, mais tombé des nues la semaine dernière quand j'ai entendu ça. Déjà, commencer par évoquer la situation d'Aston Martin, encore un Grand Prix, mais catastrophique à Barcelone. Franchement... Ce week-end, enfin cette
c'est
semaine...
C'est quand même le stand, les stand-upers du week-end.
Non mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que quand t'es aux 24 heures du Mans, tu vois cette Valkyrie qui est exceptionnelle, ouais, qui fait un bruit exceptionnel et qui commence à avoir de la performance.
Qui finit
alors
dans
qu'elle
le top 10 et tout.
Voilà, elle n'est pas aidée, tu vois, par, par le concept, entre guillemets, qu'ils veulent défendre. Et tu penses à cette pauvre Formule 1 dessinée par Adrian Newey avec normalement un moteur Honda. Enfin, c'est... En fait, il y a tout pour réussir et il n'y a rien qui marche.
Il y a tout l'argent du monde pour réussir, mais... Il y a fait, rien ils n'ont pas pris les bons fournisseurs.
C'est mais ça. Anyway, enfin, faut quand même m'expliquer ce qui s'est passé. Hein.
Alors,
il y a une voiture B qui arrive.
Ouais. Et alors, c'est le premier team principal. Alors ça, c'est aussi extraordinaire. C'est le premier team principal qui est là en Australie, qui après revient à Monaco.
Bon, je fais les meilleures dates.
Après, je crois, il a des problèmes de santé quand même, non, je crois.
Ah, je sais pas.
Il y a eu des rumeurs comme quoi, effectivement, il avait eu des petits problèmes de, enfin,
privé en tout cas.
Privé d'ordre peut-être de santé.
D'accord. C'est pour ça qu'on voit Mike Rack de plus en plus, lui qui était au placard, qu'on a sorti. Enfin bref, c'est l'Arlésienne, c'est la chienlit, aurait dit le général de Gaulle à propos d'Aston Martin. 37 tours et puis s'en va, c'est le nombre de tours parcourus par les deux Aston. Dimanche, Stroll a renoncé au bout seulement de 5 boucles pardon, pour un problème de boîte de vitesse. Alonso, lui, a été immobilisé pour un problème de batterie, battu pour la première fois d'ailleurs par son coéquipier sur les 42 dernières séances disputées. Bon, ça va, l'ancien, encore un petit peu, on en a encore un peu sous le pied. Et puis la rumeur
22e.
Du week-end. Ouais, c'est ouf, hein. c'est violent. La rumeur du week-end, Alonso de retour chez Alpine. La rumeur qui a enflammé l'Espagne. Alors tout est parti, moi je suivais ça depuis Twitter. Vous savez que ma timeline est complètement bouffée par les tweetos espagnols qui te sortent des rumeurs complètement zinzin sur les prénoms du fils de Alonso. Enfin bon bref, c'est à peu près ma vie aujourd'hui. Et du coup, la France aussi a repris ses bruits par in extenso et reprise d'ailleurs. J'étais assez étonné sur Canal+, par, moi je trouve, l'excellent Franck Montagny, qui dit qu'il y aurait un intérêt entre Alpine et Alonso autour d'un nouveau contrat la saison prochaine et que le pilote semblait presque lassé eh bien, de sa situation chez non. Aston Martin. Et on l'a senti d'ailleurs jeudi en conférence de presse. D'un autre côté, il faut évoquer, ça nous permet sujet d'évoquer le sujet Alpine. Ça va mieux quand même, Alpine, cinquième au constructeur. La lutte avec Red Bull, bien sûr, au championnat. Un concept sain. Un podium obtenu sur tapis vert cette semaine, ouais. Post-Monaco, il faut quand même revenir là-dessus. Les deux autos dans le top 10 d'ailleurs hier, même si on l'a dit, Colapinto écope d'une pénalité post-Grand Prix pour non-respect eh bien, d'un drapeau jaune. Et plus globalement, pour ouvrir tout ça, les gars, le quatrième mariage, la perspective d'un quatrième mariage entre Alonso et Alpine, en termes de storytelling...
Elisabeth Taylor.
Un peu dérangeant, quoi.
Non, mais Noviane, ça se termine quand cette histoire là?
Non, mais c'est-à-dire que. Non, mais juste pour terminer là-dessus, mariage de raison, mariage de cœur, parce que. On se rappelle qu'en 2005, il est champion du monde. Deux semaines après son titre de champion du monde, il nous annonce qu'il part un an après eh bien, du côté de chez McLaren, ce qui était quand même à l'époque très très mal passé. On a l'affaire aussi du Crashgate. Où, bon, bref, il est évacué en hélicoptère direction la Scuderia Ferrari. Ouais. Et puis 2022, le coup de pétard en plein été, où grosso modo, il a fait imploser l'équipe, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il conseillait, on l'a suspecté de conseiller Piastri, de lui dire allez, vas-y, salut, barre-toi. Et puis lui, badaboum, il annonce du jour au lendemain qu'il rejoint Aston Martin. Ce quatrième mariage.
Oui, non, mais c'est un bâtisseur d'équipe. Non,
mais tu vois, même en termes de storytelling, on peut être un peu gêné quoi d'un point de vue moral. Non, pas, votre avis sur tout ça les gars?
Vas-y.
Non, et désolé d'avoir été long, c'était pour
non, mais
vous
c'est pas
tous
les mêmes
faits.
En fait c'est pas la même équipe, c'est oui. C'est enfin vous arrivez à me dire le nom des trois derniers teams principaux d'Alpine là?
J'ai pas envie de les dire, c'est pas pareil.
mais
alors j'en ai croisé un ce week-end qui est désormais à l'Automobile Club de l'Ouest.
Il fait la BOP, c'est ça?
Ouais, d'ailleurs, on peut plus en parler.
On a plus
lui, dès qu'il, arrive quelque part, on peut plus rien dire.
Mais je peux dire qu'il est très heureux en tout cas.
Bah écoute, il avait pas l'air, mais.
Ah bah, merde.
Mais je le crois bien. Bref, excusez-moi.
32-16 hein, pour trouver la personne, la personne qui. Il y aura rien à gagner, mais en tout cas, vous pourrez faire une private avec Manu et Pierrot.
Et on vous offrira une photo dédicacée de Victor Martin si jamais vous trouvez, bien sûr.
Il a ça dans les bagages. Non, non, mais enfin, pour moi, c'est que le nom qui reste, mais bon, il y a plus de Renault, il reste que Briatore, Enstone et Gucci. Donc en fait, Gucci.
Dernier gros contrat, allez.
Gucci arrive avec l'argent pour pouvoir payer Alonso. Ouais. Briatore a ramené les performances avec le moteur Mercedes. Et Alonso bossait avec Briatore, ça se passera bien entre deux. C'est un mariage de raison en mode écoute, tu te fais ta dernière tentative. Nous, on a besoin d'un pilote numéro 1 parce que visiblement Gasly c'est pas assez, c'est ce que pense Briatore. Je dis pas que moi c'est pas assez, au contraire, hein, il lit l'équipe. Mais et puis voilà, et ça le fait. Et en fait, je vois pas en quoi c'est si dérangeant parce qu'en bien fait, Abitbull qui l'a fait revenir, Laurent Rossi, ces mecs-là sont. Complètement en dehors de la réflexion à l'heure actuelle qui existe peut-être pour Fernando Alonso. Ouais. Et en fait, le coup de poignard, il a été fait à des mecs qui n'ont plus de la valeur aujourd'hui de dire non chez Alpine. Donc, il n'y a plus de coup de poignard. Il reste plus que le branding, mais sinon.
Ça aurait de la gueule, ceci dit, je suis désolé, mais un line-up Gasly-Alonso, ça aurait plus de gueule que Gasly-Colapinto, et j'ai rien contre le pilote argentin. Hein.
Ça se trouve, ce sera Alonso-Colapinto. Hein.
Ah, tu crois ?
Bah, alors, il ramène des thunes. Hein.
Et ben, je vais te dire
après,
un truc.
Après, Gasly vient d'être prolongé.
Je pense qu'Alonso, il ramène 2-3 marrons quand même aussi. Sur la table, hein, parce que quand tu auras les sponsors sur la voiture,
chez Briatore, va falloir être très très bon hein, pour défendre sa place si tu ramènes pas un énorme budget.
Non, mais bien accessoirement.
C'est vrai que Gasly au final ne fait pas l'objet des déclarations de Fabio Briatore, c'est-à-dire que c'est tu fais très bien et bah c'est le minimum parce que tu ramènes rien. Bah, tu
ouais, mais ça a changé. Le discours de Briatore sur Gasly a quand même changé par rapport à notamment il y a un an. Pour tout vous dire, les derniers bruits moi qu'on m'a partagé quand j'étais au Mans, c'est qu'on m'a alors ça venait pas d'Alpine, je tiens à préciser parce que c'est vrai que j'ai dit que j'étais pour Alpine, ça venait pas d'Alpine. Il y a deux entités qui sont complètement différentes, F1 et endurance, ça n'a absolument rien à voir. Mais les quelques bruits que certains insiders m'ont partagé, c'est que Gasly aurait validé le profil de Alonso.
Bah quand t'as ce pouvoir-là,
on m'a dit ça.
Je pense que c'est une bonne idée.
Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il le fasse, mais en tout cas, on en aurait parlé à Gasly et Gasly aurait dit.
Est-ce que Gasly aurait appelé Esteban pour savoir comment ça se passe avec ça
et prendre la décision inverse.
Ça, je suis moins sûr. Ça, je suis moins sûr. Ça, je suis beaucoup moins sûr.
Écoute, il est habitué aux fanbase toxiques Gasly, donc c'est ok.
Oui, c'est vrai.
Ah bah là, ça commence à être dur.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, quoi.
Non, mais c'est rocambolesque. En vrai. En vrai, j'ai envie de te dire, avec tout l'amour que j'ai pour Fernando Alonso, je commence à être lassé. Je commence à être lassé. Quelque part, il y a une espèce de forme de résignation chez moi. Pourtant, j'adore Alonso, mais résignation sur...
Bon
non,
c'est le personnage.
C'est mon rapport à Alonso, tu vois, où j'ai vraiment de la résignation en mode... Allez, c'est reparti, Honda, ouais, bah forcément ça allait mal se passer. Adrian Newey, la super caisse, ouais, le châssis, en fait, pas si bien que ça.
Ça fait 20 piges au bout d'un moment aussi. Hein.
C'est bon, c'est ça, c'est lâche l'affaire, hein. Va faire l'Indy 500, va faire le Dakar, fais-nous rêver ailleurs qu'en Formule 1, en fait.
Monte dans la Valkyrie, frérot.
Mais carrément, mais carrément.
Parce qu'on est à ça, que ça soit Sony Hayes, hein.
Non mais
il va se barrer faire des sombres courses au Mexique. Ah,
mais bien sûr, mais qui fasse ça. Et moi je serais le premier à le suivre. Peut-être pas quand même, mais le premier à le suivre. Mais tu vois, et je suis en mode. Même Aston Martin Honda, punaise, avec tout le pognon qui a été injecté dedans, en être là où ils en sont, c'est quand même catastrophique. Quoi. Enfin,
ne pas avoir signé pour Mercedes, hein, on rappelle. Hein.
Alors, je suis d'accord sur
24,
l'idée et. McLaren y pense aussi. Je suis d'accord sur l'idée de, dans une Formule 1 moderne, d'avoir son propre moteur. C'est une bonne idée. Ça coûte très cher. C'est très risqué. Mais tu te retrouves pas comme McLaren à faire bon, bah, le mieux qu'on puisse faire, c'est P3 quand il n'y a pas. Quand il y a les deux Mercedes ou quand il y a une Ferrari qui est un petit peu mieux que
nous. Oui, enfin, si on raisonnait toujours comme ça, ça veut dire qu'aucune écurie qui n'est pas constructrice peut gagner un championnat. En l'occurrence. Bah, Red Bull a gagné avec Renault quand Renault a équipé aussi Lotus.
Mercedes, McLaren a gagné alors que Mercedes était présente. C'est pas forcément.
En fait, c'est une question. En fait, il faut pas se tromper dans ce débat-là, les gars, et on va pas le refaire aujourd'hui. C'est qu'il y a une question de philosophie et une question de pognon. Et que nous, on parle souvent d'une question de philosophie et qu'il faut pas oublier que les décideurs décident vis-à-vis de l'oseille.
Bah, ça coûte moins cher de développer un moteur développer un moteur.
Exactement. Et le problème, c'est que quand tu mets pas assez d'argent pour développer ce moteur, bah forcément, il est moins bon que les autres. Donc, du coup, t'as moins de performance. Donc, voilà. Mais c'est ça la difficulté. Mais. Moi je sais pas, tu vois, mais moi j'ai envie personnellement, et c'est pas rien à voir, en étant objectif, je trouve que Fernando Alonso a encore sa place en Formule 1 aujourd'hui.
Oui, bien sûr. J'aimerais bien avoir dans la lutte, en fait.
Voilà, ça, c'est un personnage qui est important, et qui est important aussi, je pense, pour la Formule 1, et en effet, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien le voir pour la lutte.
En fait, ce qui est archi décevant, c'est que la seule année où il a eu du matos depuis littéralement 10 piges, c'est une année où Red Bull était intouchable. Et du coup, on n'a pas pu avoir de bataille. Là, t'as quatre écuries qui sont là. T'aurais envie d'avoir un Alonso qui fait partie de cette bande-là, en 24 aussi, en 25 aussi. Et en 23, il faisait un podium. Et en fait, c'était déjà exceptionnel de le voir se battre comme ça. Mais en fait, il se battait avec Pérez. Max était dans une autre planète. Et ça a duré, encore une fois, 8 Grands Prix, 9 Grands Prix. Parce que derrière,
quelques semaines même, t'as raison.
J'ai fait quelques conneries.
T'as raison. Les gars, on va refermer cette page. Juste une petite précision, parce que vous avez été nombreux aussi. Eh bien, jeudi, lors du Media Day, à vous poser la question, Fernando Alonso qui arrive dans les journées, c'est qu'il dit « Je pense que ce sera mon dernier Grand Prix ici à Barcelone. » Bah oui, logique, il n'y aura pas de Grand Prix à Barcelone l'année prochaine.
Non, mais il revient en 28, c'est pour ça.
Aussi. Il revient en 28, mais il a dit l'année prochaine, je pense. Ah oui, là, il a dit, pas l'année prochaine, il a dit « Ce sera mon dernier. » Donc on peut penser qu'il a en effet une ou deux saisons, en tout cas sous le pied. Et quand même derrière, il a dit, ça c'est exceptionnel, il a dit à des journalistes qu'il avait dit ça, à des fans qui étaient venus interviewer un espèce de truc là, monté par Aston, et il leur a expliqué, les journalistes, j'aime les mener en bateau parce que ça me fait rire. On sait qu'il est notamment en embrouille avec les journalistes espagnols. Bon bref.
C'est un très bon joueur de poker.
C'est vraiment une télé-novela, ce mec.
C'est un très bon joueur de poker. On rappelle
qu'au moment où il y a eu tout le bordel de Piastri, il poste une story à Oviedo. Avec son casque de vélo, genre.
Comme ça. La vie est bonne.
Exceptionnel. Les gars, avant de refermer cette émission, on fait un petit point justement sur le classement au championnat des pilotes, et championnat des constructeurs. On commence avec les pilotes, avec un homme qui est bel et bien de retour. Si vous posiez la question, avec tout simplement 41 points de retard sur Andrea Kimi Antonelli. Est-ce que le championnat est relancé? Disons qu'il n'a jamais été véritablement plié. Attention à George Russell qui pointe à 50 points désormais de son coéquipier Leclerc, dans les mêmes temps de passage, on va dire, que Norris et Piastri, et Verstappen qui reste bien sûr en embuscade. Mais pour terminer le débat qu'on vient de faire, Gasly à 41 points, c'est la preuve en effet qu'on peut scorer en tout cas avec cette Alpine. Et puis on regarde le classement également des constructeurs, avec toujours Mercedes forcément qui domine avec 72 points d'avance, et Ferrari qui a un matelas très confortable sur une McLaren qui a subi beaucoup d'avaries mécaniques. Red Bull désormais qui prend le large par rapport à Alpine, c'est l'un des enseignements de ces dernières semaines. Alpine à la lutte avec Racing Bull. Voilà les amis, cette belle mission. J'espère que vous êtes régalés. Promis, on va aller se reposer un petit peu, moi personnellement en tout cas, on va faire une bonne nuit de 15h, et puis on se retrouve pour le prochain Grand Prix. On va se régaler, ce sera lundi 29 juin pour le Grand Prix d'Autriche. Un super rendez-vous, le Grand Prix d'Autriche, les gars.
Non, ouais, de la bataille.
Je pense que ça va être très très bien.
Franchement, avec ces batteries-là, ça peut être vraiment,
ça peut être banger,
vraiment banger.
Et avec les virages à l'heure actuelle, comme ils sont, je pense qu'il y aura une vraie vraie lutte entre Mercedes et Ferrari. Pas oublier évidemment les autres, mais ça promet.
J'espère qu'on vous a convaincu d'être avec nous. Ça se passe sur RMC Sport, et si vous voulez toutes les infos, vous vous abonnez bien sûr au Paddock RMC. Soutenez-nous les amis, on a besoin de vous, on a besoin de faire grandir ce projet, et on espère que vous retrouvez dans la qualité, vous nous commentez cette émission, réagissez au débat, vous donnez vos impressions, et on sera là pour vous répondre. Passez une bonne journée, et prenez soin de vous bien évidemment, et puis on remercie monsieur Brian Levavasseur qui nous a aidé à préparer cette émission. Ciao les gars.